Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 25 avril 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique, une raffinerie syrienne relancée pour alimenter en pétrole la résistance. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Le CGRI saisit un navire étranger dans le golfe Persique avec 200 000 litres de carburant de contrebande. Emmanuel Macron, réélu président de la République française avec 58,54% des voix au second tour. Et en Tunisie, 155 migrants clandestins interceptés et 3 corps repêchés au large des côtes sud-est. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les forces navales du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le CGRI, ont saisi un pétrolier battant pavillon étranger transportant 200 000 litres de carburant de contrebande dans le golfe Persique. Le colonel Ghulam Hossein Hosseini, chef du département des relations publiques de la deuxième zone navale du CGRI, a déclaré dimanche 24 avril que les 8 membres d'équipage du navire ont été arrêtés et emmenés seront remis aux autorités judiciaires pour une enquête complète et des poursuites judiciaires. Il a ajouté que 5 autres bateaux qui avaient l'intention de ravitailler le navire battant pavillon étranger ont également été arrêtés pour complément d'enquête. La lutte contre la contrebande de carburant est une priorité absolue pour la marine du CGRI, a souligné le responsable en précisant que cela s'inscrit dans le cadre du soutien de la production et de l'économie nationale du pays. La lutte contre la contrebande de carburant est une priorité absolue pour la marine du CGRI. Les forces du CGRI font tout leur possible pour lutter sérieusement et résolument contre la contrebande organisée au large de toutes les côtes du golfe Persique, a insisté M. Hosseini en avertissant que les rives du golfe Persique et ses eaux environnantes ne seront jamais un endroit sûr pour les profiteurs et les contrebandiers. Un missile Grad a été tiré depuis la région de Ras Al Ain au sud de Tyr, dans le sud du Liban, vers les territoires occupés d'Israël. L'armée d'occupation israélienne a déclaré dimanche soir, 24 avril, dans un bref communiqué. Il y a peu de temps, on a entendu parler d'une explosion près de la ville de Shlomi. Détail à l'étude, routine complète sur le front intérieur, prétend l'armée israélienne. Un porte-parole de l'armée israélienne, Avichai Adrahi, a écrit sur son compte Twitter « Il y a peu de temps, un tir de roquette a été signalé depuis le territoire libanais vers le territoire israélien et il est tombé dans une zone dégagée. Les alarmes n'ont pas été activées », prétend ce porte-parole de l'armée israélienne. L'armée israélienne, par crainte des missiles de la résistance, a déployé 1 400 véhicules blindés aux alentours d'Al-Rots occupé et s'est mise en état d'alerte, sans compter de 12 bataillons de militaires israéliens stationnés le long de la ligne de contact avec la ligne verte. Le journal israélien Israel Hayom a affirmé que l'armée se mettrait en état d'alerte totale pour les deux prochaines semaines, qu'il juge être encore tendue et engagée dans de vastes affrontements dans les régions occupées. Le journal cite par ailleurs Aviv Kohavi, qui avait fait part du déploiement de 6 bataillons des réservistes dans les zones de tension à Rots, en Cisjordanie et dans les territoires occupés en 1948. Après une semaine d'affrontements surtout aux frontières méridionales et de tirs de missiles et roquettes sur Israël, les évaluations de l'armée et des instances de sécurité prévoient 2 autres semaines pleines de tensions, d'autant plus que d'importantes cérémonies telles que le jour de la Nakba, les nuits de Qadr, la journée de Rots et la fête de Fitr s'y déroulent. L'armée se maintiendra donc en état d'alerte, étant prête à tout scénario possible, a écrit Israel Hayom. Et sachez également qu'un drone israélien a été abattu samedi soir aux frontières libanaises. La nouvelle a été diffusée par Al-Nashra et confirmée par des sources informées selon lesquelles l'armée israélienne a tiré samedi 23 avril dans la nuit des bombes éclairantes dans le ciel du passage frontalier de Fatima après qu'un de ses drones a fait crash. Ces sources ont indiqué que le tir des bombes éclairantes a eu lieu simultanément à l'envoi d'un drone par l'armée israélienne au-dessous de cette zone et d'un autre dans le ciel des axes orientaux de la colonie Metula jusqu'à la zone de Marjeyoun. Les Israéliens ont aussitôt expédié des véhicules à la zone pour y lancer une opération de recherche. En Syrie, 3 hommes armés de la milice des FTS, soutenus par l'occupation américaine, ont été blessés dans une attaque menée au nord-ouest de la ville de Raqqa. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, qu'une attaque aux mitrailleuses menée par des hommes inconnus avait ciblé un point militaire des FTS dans la zone d'Al-Furusiya, au nord-ouest de Raqqa, ce qui a fait 3 blessés parmi ces hommes armés. Ailleurs, à Saka, les forces d'occupation turques et leurs mercenaires de réseaux terroristes ont renouvelé leur agression contre les villages périphériques de leur zone de déploiement à proximité de la bande frontalière, en visant à l'artillerie et aux roquettes la périphérie de la localité d'Abu Hassin, au nord-ouest de Saka. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires terroristes ont visé à l'artillerie et à un certain nombre de roquettes les maisons des citoyens dans plusieurs villages dans la périphérie d'Abu Hassin, au nord-ouest de la ville de Hasaka, causant des dégâts matériels dans les maisons et les propriétaires, a affirmé Sana. Et sachez également que les éléments daéchistes actifs dans la banlieue est de la province de Homs, où l'armée américaine a déployé des dispositifs logistiques et militaires, recevaient un soutien significatif de la part des occupants américains. Les aides américaines destinées aux organisations terroristes arrivent depuis Raqqa et Hama en tant que des voies d'approvisionnement. Pour la 3e semaine consécutive, les avions de chasse russes ont poursuivi leurs frappes aériennes contre les bases de Daesh, dont les cellules restent actives dans les provinces syriennes de Raqqa, nord-est, Hama, ville située à 220 km au nord de Damas, et Homs, située à 100 km de Damas. Selon la source, suite aux attaques, 4 foyers du groupe terroriste ont été démantelés et 40 éléments daéchistes ont été tués et blessés. La source a déclaré qu'au cours des 3 dernières semaines, des avions de combat russes ont bombardé des positions et des routes de ravitaillement de Daesh dans le désert syrien avec des frappes préventives, désamorçant ainsi les tentatives du groupe terroriste d'attaquer les convois commerciaux et les positions de l'armée syrienne. Et en France, Emmanuel Macron est réélu président de la République avec plus de 18,7 millions de voix, soit 58,54% des suffrages exprimés lors du second tour de l'élection présidentielle 2022 dimanche, selon les résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur. Son adversaire, Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national extrême droite, qualifiée pour une 2e fois à un second tour d'une présidentielle, a obtenu près de 13,3 millions de voix, soit 41,46%. L'abstention s'établit à 28,1% et 6,35% d'électeurs ont voté blanc, tandis qu'ont été comptabilisés 2,25% de bulletins nuls. Macron a obtenu le soutien de 38,52% du total des 48,75 millions des électeurs inscrits, selon le résultat officiel. Trois corps de migrants clandestins ont été repêchés par des unités de la garde-côte au large de la province de Sfax, dans le sud-est de la Tunisie, a révélé dans la soirée de dimanche à lundi le porte-parole de la garde nationale tunisienne. Il a précisé que 155 individus de différentes nationalités ont été interceptés au cours de 5 tentatives ratées d'immigration clandestine. Le porte-parole a ajouté que des unités de la garde nationale dans les régions de Tina et Amara ont arrêté 7 personnes de nationalité africaine. Les suspects tentaient de rejoindre illégalement les côtes italiennes. Le porte-parole de la garde nationale a confirmé que 2 d'entre eux avaient été placés en garde à vue sous le chef de formation d'une Concorde pour aider à franchir les frontières maritimes illicitement. Au large de la zone maritime de Monastir, 2 autres tentatives d'émigration clandestine ont été également déjouées et 17 migrants, dont 10 étrangers, ont été interceptés. Le gouvernement burkinabé a déclaré dimanche soir que sa priorité demeurait la lutte contre le terrorisme, alors que le délai que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait fixé au pays pour fournir un calendrier clair pour organiser les élections prend fin ce lundi 25 avril. Les discussions se poursuivent et le Burkina Faso est dans une très bonne disposition à entendre aussi les remarques de la CEDEAO, a affirmé dimanche soir à la télévision publique RTB le porte-parole du gouvernement burkinabé, Lionel Bilko. Nous n'allons pas sacrifier nos efforts pour amener la paix au Burkina Faso en courant derrière un calendrier intangible. Je pense très sincèrement que la CEDEAO doit contextualiser son regard et prendre en compte les réalités de chaque pays et de chaque territoire, a-t-il souligné. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Une raffinerie syrienne relancée pour alimenter en pétrole la résistance. En réponse à un appel du Hezbollah libanais à importer du pétrole iranien sur un fond de pénurie de carburant résultant d'une crise financière qui avait commencé d'affecter le Liban depuis 2019, la République islamique d'Iran a déjà fait parvenir plus d'une fois du pétrole au peuple libanais, et cela à bord de pétroliers bravant les menaces américano-israéliennes. Depuis le port syrien de Banias, le pétrole iranien devait pourtant passer par un itinéraire terrestre pour parvenir à sa destination ultime. Mais les choses semblent changer dans le sens positif. Un récent rapport des médias iraniens fait part de l'avancement du projet d'investissement iranien dans les travaux de construction de raffineries en Syrie. Un projet qui, une fois terminé, pourra approvisionner en pétrole les pays de l'axe de la résistance, dont la Syrie et le Liban voisins. Les études sur la construction d'une raffinerie de 140 000 barils en Syrie sont déjà terminées et le projet entrera en vigueur en consortium avec la participation de l'Iran dès que toutes les conditions seront réunies. Dans le cadre de la politique de transparence qui est destinée à prévenir toute corruption, le gouvernement iranien a publié pour la première fois les états financiers de certaines entreprises publiques par l'intermédiaire de l'organisation de privatisation. L'une de ces entreprises publiques est la Société nationale de raffinage et de distribution des produits pétrochimiques. Le bilan financier de la Société nationale de raffinage et de distribution des produits pétrochimiques comprend une partie qui concerne la raffinerie de Fouroklos en Syrie. Selon les états financiers, près de 2,6 milliards de dollars ont été investis par l'Iran au projet de Fouroklos en Syrie. Pour le rappel, un accord a été signé en 2006 entre l'Iran, le Venezuela, la Malaisie et la Syrie pour la construction conjointe de la raffinerie de Fouroklos. L'usine sera installée à proximité de la ville d'Homs, dans le centre du pays, avec une capacité de production de 140 000 barils par jour. La construction de la raffinerie a été interrompue en 2012 en raison d'attaques terroristes et du manque de sécurité dans la région. L'Iran et le Venezuela ont convenu d'approvisionner la raffinerie en pétrole. Récemment, Jalil Salari, le PDG de la Société nationale de raffinage et de distribution de produits pétrochimiques, a déclaré que les examens sur la construction d'une raffinerie de 140 000 barils en Syrie avaient déjà fini et que le projet entrerait en vigueur dès que d'autres conditions seraient réunies. Dans ce droit fil, Samad Mohammadi, expert iranien des questions de l'Asie de l'Ouest, a déclaré. Jusqu'en 2010, le projet de construction de la raffinerie Fuloklos était en cours et il devait finir en 2015. Mais il a été gelé en 2012 après le début de la crise en Syrie, d'autant plus que Fuloklos était parmi les zones les plus touchées par les conflits. La construction de cette raffinerie pourra résoudre la crise actuelle du carburant en Syrie et pourrait également contribuer à l'approvisionnement en hydrocarbures d'autres pays de l'axe de la résistance, comme le Liban, a réaffirmé Samad Mohammadi. Et d'ajouter, le Liban souffrait récemment d'une grave crise du carburant qui avait été déclenchée par un complot des États-Unis visant le pays. L'importation du pétrole iranien par le Hezbollah a finalement changé la donne. Selon la douane, l'augmentation des exportations de produits pétroliers iraniens vers les pays de la région a rapporté à l'Iran un revenu de 3 milliards de dollars, rien qu'en 2020. La construction de la raffinerie de Fuloklos profitera à l'Iran non seulement sur le plan économique, mais en plus au niveau politique et sécuritaire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a dénoncé les attaques du régime sioniste contre les fidèles palestiniens dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Malheureusement, nous avons été témoins de la transgression des sionistes à la mosquée d'Al-Aqsa pendant le mois béni du Ramadan, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. C'était mardi lors d'un appel téléphonique avec son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Marzouk. Nous espérons, a souligné le chef de la diplomatie iranienne, que la nation palestinienne obtiendra ses droits historiques avec le soutien des pays et nations musulmans. Pour rappel, plus de 150 fidèles palestiniens ont été blessés. C'était samedi lorsque les forces israéliennes ont pris d'assaut l'enceinte de la ville sainte occupée de la vieille ville d'Al-Quds. Dans le même temps, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires des occupés palestiniens depuis 1977 a présenté au Conseil des droits de l'homme un rapport dans lequel il conclut que la situation dans les territoires palestiniens occupés s'apparente à un apartheid. Dans le même temps, le ministère jordanien des Affaires étrangères a convoqué, c'était lundi, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël pour lui signifier la protestation des autorités jordaniennes et exiger la cessation immédiate de violations contre la mosquée d'Al-Aqsa et ses fidèles. Ajouté à cela, en ce qui concerne la prise de position de la Jordanie est un pays qui a conclu l'accord de paix avec le régime israélien, la Jordanie qui a œuvré pour la normalisation des accords de paix avec le régime israélien, et là, en fait, ce pays aussi en est arrivé à cette conclusion de dénoncer violemment cette agression de la mosquée d'Al-Aqsa par les militaires israéliens. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission un juriste français spécialiste des questions internationales depuis Damas. Il s'agit de Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Bonjour
Et l'autre invité de la mission d'aujourd'hui est un analyste politique français spécialiste des questions internationales qui était avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortillier. M. Dortillier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à tous vos auditeurs et à mes...
Monsieur Dortillier, est-ce que vous m'entendez ?
Je l'entends très bien, oui.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dortillier, d'avoir accepté notre invitation. Comme première question, Monsieur Dortillier, comment expliquez-vous cette agression par les militaires des sionistes de la mosquée d'Al-Aqsa et cette condamnation qui s'en est suivie, Monsieur Dortillier ? Il y avait plusieurs pays qui ont condamné ces actes de provocation de la part du régime israélien, Monsieur Dortillier.
Eh bien, je crois que israélienne ne tente pas un événement particulier.
Nous avons un souci en fait de un souci technique de liaison avec vous, plus précisément avec Toulouse. Nos collègues à la régie vont tenter de vous rappeler et de, si vous voulez, de régler ce souci technique. En attendant, on va partir tout de suite à Damas pour rejoindre Arnaud Develé. Arnaud Develé, je viens de lancer le sujet. Vous, comment expliquez-vous en fait de ce qui se passe actuellement entre Palestiniens et régions israélien, s'il vous plaît.
Oui, vous m'entendez ?
Je vous entends parfaitement. La parole est à vous, Maître Develé. Je vous en prie, allez-y.
Oui, dans ce sens-là, j'aimerais faire écho effectivement aux remarques, à l'introduction du professeur Dortillier. Cet événement en soi n'est malheureusement pas nouveau, mais je crois qu'il faut avoir en tête aussi une vision d'analyse au travers d'un prisme qui voit la mosquée Al-Aqsa être vraiment le cœur nucléaire du conflit dans cette partie de la région. Partant du principe que les Israéliens ont une eschatologie qui prévoit quelque part la construction de ce qu'ils appellent le troisième temple. Et il se trouve que la location de la construction de ce troisième temple se trouve être, selon eux en tout cas, exactement à l'emplacement du troisième site le plus sacré dans l'islam. Donc fatalement, lorsque les hasards du calendrier voient que lors du mois du Ramadan et donc des prières qui sont forcément amenées à y prendre place, vous avez en même temps la fête religieuse dite Purim, et que donc dans ce contexte-là, les extrémistes religieux israéliens mettre un point d'honneur à vouloir investir le lieu pour y performer leur propre rite religieux. Vous avez donc l'armée israélienne qui, si je puis dire, leur sert de bélier pour évincer les fidèles musulmans. Et quelque part, c'est plus qu'un, comment dirais-je, une lutte politique, mais ça devient une lutte quasi religieuse. Et quand on comprend l'importance des partis religieux les plus extrémistes dans les attelages successifs que l'on a pu voir à la tête de l'État sioniste, toutes ces provocations et ces outrances prennent toute leur signification.
Mmh. Monsieur Dortillier, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ?
Je vous entends très très bien, monsieur Dortillier, oui.
Je vous en prie, la parole est à vous, monsieur Dortillier.
Eh bien, je dirais que je relèverai de ce que dit maître Develé que la mosquée Al-Aqsa, ces manifestations, disons, se déroulent pendant la fête des Pourim, c'est-à-dire une fête religieuse juive qui est dite la Bible contre les Persans, contre les Iraniens. Et ceci doit être souligné. La fameuse histoire de Mardoké, qui sont d'ailleurs enterrés, qui sont inhumés, je dois le souligner, dans la ville de Hamadan. Ceci étant dit, le sionisme se fonde sur une superstition du fait que tous les Juifs doivent retourner en Israël, etc. Bon, superstition à laquelle il essaie de croire. Mais en fait, la plupart des citoyens ne suivent pas ces gens-là. et il les tolère, voyez-vous. Ça donne une sorte de légitimation spirituelle aux yeux du monde. Mais en réalité, vous savez, l'état sioniste est un état de passage. Les sionistes y vont, les sionistes s'en vont, ils sont remplacés, etc. Ce qu'il y a, c'est que ce qui manque à cela, pour que la justice revienne, c'est une concertation, nous le redisons, des pays musulmans, voyez-vous. Et ceci, malheureusement, ne s'est pas produit depuis 48-49, depuis qu'Israël a été, disons, reçu aux Nations Unies, avec l'aval, évidemment, des deux grandes puissances de l'époque, la puissance de Staline et la puissance des Américains.
Pourquoi cela ne s'est pas produit, M. Dortiguier, en fait, depuis la création, comme vous le dites, en fait, du régime des Israéliens? À l'époque, on a dit que voilà, il faut mettre en place deux États, régime israélien et État palestinien. Pourquoi cela ne s'est pas produit, M. Dortiguier, jusqu'à présent?
À mon avis, par jalousie, à l'intérieur même du monde musulman, jalousie des États arabes entre eux, la volonté de se plier aux injonctions de l'Angleterre ou des États-Unis, etc. Et je crois que ce manque de sens patriotique, de sens communautaire, disons plutôt, dans le monde musulman, est à mon sens la véritable cause de l'État malheureux, continu, si vous voulez, des Palestiniens. Vous avez également eu aussi une grave faute politique, c'est celle d'opposer deux mouvements politiques, le Hamas d'une part et l'OLP. Vous voyez ? Alors, ce manque de cohésion, il s'est surtout manifesté pendant l'invasion israélienne du Liban, et, à mon avis, porte tort à la cause palestinienne, car elle n'est pas claire. Elle n'est pas, disons, structurée, voyez-vous. Et je dirais que si j'ai, à mon âge, disons, une remarque à faire à l'encontre des Palestiniens, envers les Palestiniens, c'est que ceci, en Europe en particulier, n'explique pas réellement le fond de la question. Notre jeunesse ici, enfin, disons, nos élites, ignorent tout, voyez, à peu près tout, de l'histoire palestinienne. Ils croient que c'est un résultat de la Seconde Guerre mondiale. Non, c'est un résultat de la Première Guerre mondiale, de la déclaration de Balfour. Je m'aperçois que dans les lycées, par exemple, ici, ou dans les universités, les jeunes gens l'ignorent complètement. Et je parle non seulement des jeunes gens d'origine française, et puis, ou de souche, français de souche, comme on dit, mais également de la population immigrée. Et c'est sur cette ignorance que se poursuit justement l'insolence des sionistes.
Maître de Velay, je viens en fait d'évoquer tout à l'heure la prise de position de Jordanie. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël. Et c'était dimanche, le roi d'Abdallah de Jordanie a appelé Israël à respecter le statut historique et légal de la mosquée d'Al-Aqsa et à mettre fin à ces mesures illégales et provocatrices. Mais la question qui se pose, Maître de Velay, en fait, est de savoir si, en fait, ces actes de provocation d'Israël ne sont pas plutôt encouragés par ces prises de position des pays tels que la Jordanie qui œuvre pour la normalisation des relations avec Israël et qui ont des relations ouvertes et cachées avec le régime israélien. À cela s'ajoutent également des agissements qui avaient été, si vous voulez, effectués dans ce sens par certains autres régimes de la région. Je parle par exemple des Émirats Arabes Unis, et je parle, si vous voulez, de Bahreïn, même de l'Arabie Saoudite, et de plus loin, je parle par exemple du Maroc, Maître de Velay.
Oui, effectivement, le fait de condamner ou de faire des proclamations et autres déclarations officielles enjoignant l'entité sioniste à respecter la dignité des fidèles, si elle n'est pas suivie d'actions concrètes sur la durée, elle ne s'inscrit pas dans une stratégie articulée et coordonnée avec les autres gouvernements, avec l'idée partagée de vraiment jouer la carte de la solidarité, comme le disait le professeur Dortiguet, confessionnel. Et quand je dis confessionnel, je parle au sens large et non pas effectivement privilégier des alliances ponctuelles sur des dossiers ponctuels avec d'autres gouvernements qui seraient une branche ou une autre branche de l'islam. Il faut vraiment que les musulmans prennent conscience que tant qu'il n'aura pas une solidarité, un sens d'unité, ils n'arriveront pas à faire valoir leurs droits, parce que la dispersion des agendas fait qu'effectivement, et comme vous le soulignez, on assiste à des fracturations, tantôt sur des accords dits de normalisation, qui voient en fait la cause principale qui devrait être poursuivie être complètement éparpillée aux quatre vents. Mais je dirais même que dans le cas de la Jordanie, si on se rappelle des événements d'il y a un an, et c'est ça un peu le problème, c'est que les gens n'ont pas de mémoire. Mais cette tentative de putsch contre le roi trouve ses racines aussi dans un contexte qui semblerait avoir ses origines, eu égard à justement les accords qui avaient été conclus en 1994 avec l'entité sioniste, parmi lesquels on trouvait une clause qui laissait entendre que le roi Abdallah était le garant du troisième site le plus sacré d'Islam. Or, on a pu découvrir par la suite que Riyad, quelque part, lorgnait sur ce statut et souhaitait incorporer, ajouter aux deux mosquées de Mecca et Médina le sanctuaire d'Al-Aqsa. Donc vous voyez, il faut comprendre un petit peu tout ce qui se passe et voir dans ce contexte-là comment il est difficile, lorsque des événements comme ceux qui se sont produits à Al-Aqsa ces derniers jours se produisent, de mobiliser de manière uniforme une réponse qui soit de nature dissuasive pour le régime d'occupation. En l'absence d'une telle réaction, d'une telle coordination entre les différentes capitales du monde musulman, il est difficile d'imaginer que le régime sioniste puisse se sentir un tant soit peu mis en garde, à tout le moins.
Merci beaucoup. Monsieur Dortiguet, je viens de le dire tout à l'heure, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés palestiniens depuis 1967, Michael Link, a qualifié d'apartheid de cette politique suivie par le régime israélien contre le peuple palestinien. Monsieur Dortiguet, en dépit, si vous voulez, de cette conclusion faite par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés depuis 1967, pourquoi, d'après vous, cette absence, Monsieur Dortiguet, de réaction de la part de ce qu'on appelle la communauté internationale? Pourquoi, par exemple, il n'y a pas de ce passage à l'action pour contraindre le régime israélien à mettre immédiatement un terme à cette agression contre le peuple palestinien, ces actes de provocation contre la mosquée Al-Aqsa, Monsieur Dortiguet?
C'est que l'influence des sionistes en Europe, par exemple, et au sein des deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis, bon, l'Angleterre, les Pizarra, cette présence, cette influence des sionistes, ce barrage des sionistes, disons, tient à la crise financière continue. Je crois que là, il y a, de la part des sionistes, il y a, disons, l'usage d'une arme redoutable, et ils s'en servent depuis leur création, disons, la création de l'État. Ils vivent de crises extérieures. Ils ont vécu sur la guerre froide, voyez-vous, et maintenant ils vivent sur la crise ukrainienne, puis sur d'autres crises, voyez-vous. Et tant qu'il n'y a pas d'apaisement des crises, jamais l'Europe ou les grandes puissances n'adopteront une position de justice. Position qui était réclamée, du reste, par les Nations Unies, quand Israël, j'ai eu l'occasion de le dire quelquefois, s'est présenté en 1948-1949.
Merci.
Il s'est présenté à condition, je le répète, je terminerai là-dessus, qu'il résolve le problème palestinien. Or, celui-ci, il n'en tient pas compte. Ce sont des fanatiques, voyez-vous, qui sont poussés par une passion malsaine.
Maître de Velay, Amnesty International aussi a réagi à cette conclusion du rapporteur spécial de l'ONU, Saleh Higazi, directeur adjoint pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Amnesty International a déclaré « Les conclusions du rapporteur spécial sont importantes et arrivent à point nommé pour conforter le consensus international croissant selon lequel les autorités israéliennes se rendent coupables d'apartheid contre la population palestinienne. » Maître de Velay, il y a désormais ces organes internationaux, ces institutions internationales qui commencent sérieusement, si vous voulez, à mettre en cause la politique anti-palestinienne du régime israélien, n'est-ce pas, Maître de Velay?
On pourrait le penser, effectivement, sauf que ce soit le rapporteur spécial. Rappelons pour nos auditeurs que le rapporteur spécial est nommé pour une période de 8 ans, qu'il est un bénévole, qu'il n'est pas rémunéré par les Nations Unies, donc il a une certaine liberté de parole et une certaine indépendance. Et en général, c'est quelqu'un qui est issu du monde académique, donc on peut penser qu'il a qu'il fait preuve d'une certaine rigueur dans son approche du dossier. Les rapports qui sont ensuite fournis n'ont pas, comme on dit, les dents. Il faut donner des dents au système juridique international, et faire des rapports et les compiler, les accumuler les uns sur les autres au fil des années, sans prendre les mesures nécessaires, ne va pas en soi, j'allais dire, faire avancer une solution crédible. Pour Amnesty International, quelque part, ça ne mange pas de pain pour eux de reprendre les conclusions qui sont après tout les conclusions d'un expert de l'ONU. Donc ils ont cette couverture, si je puis dire, au cas où ils seraient attaqués par, je puis dire, les groupes de pression sionistes. Mais rappelons quand même pour nos téléspectateurs que dès 2006, l'ancien président américain Jimmy Carter avait, dans un ouvrage publié cette année-là, conclut que le régime israélien est un régime d'apartheid. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais encore faut-il maintenant que les institutions internationales se dotent de moyens qui soient de nature à faire rendre gorge aux violations répétées et continues de ce régime.
Et comment Maître de Velay, excusez-moi de vous couper la parole, là vous soulignez en fait un point important, vous dites que voilà, les institutions internationales doivent se doter des moyens pour en fait lancer, si je vous ai bien suivi, une action, si vous voulez, judiciaire, des poursuites judiciaires contre le régime israélien. Mais comment le faire, Arnaud de Velay?
Je pense que cela ne peut pas se faire sans une réforme profonde des institutions onusiennes. Si ce régime, cette architecture doit perdurer dans le temps, il faut déjà se débarrasser du principe du deux poids deux mesures et s'en tenir à des critères objectifs et probablement essayer de remettre en cause le droit de veto qui peut caractériser le statut de membre permanent au sein du Conseil de sécurité, afin que l'Assemblée générale, par exemple, puisse elle-même voter en faveur de certains textes appelant à des sanctions économiques ou à des mesures de rétorsion qui seraient à déterminer, sans que cela puisse faire l'objet d'un droit de veto et donc intrinsèquement d'un blocage. Or, on en est bien loin, et cette question de la réforme de l'appareillage onusien, si je puis dire, a été sur la table depuis au moins une trentaine d'années, la fin de la guerre froide, et est malheureusement toujours restée lettre morte.
Monsieur Dortiguier, très très rapidement, est-ce que vous aussi vous estimez ce dont on a besoin, c'est la refonte, si vous voulez, de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité?
Et bien sûr, parce que ce Conseil de sécurité des Nations Unies est un résultat de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire c'est la dictature des vainqueurs, voyez-vous, je ne trouve pas d'autre mot, et que donc ils ont le droit finalement d'imposer au monde leurs propres intérêts particuliers. C'est donc une réforme, bien sûr, des Nations Unies qu'il faut préparer. Malheureusement, je ne le crois pas possible, surtout dans l'atmosphère actuelle d'affrontement en Europe.
C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
La traduction d'ouvrages rédigés en langues européennes, et plus particulièrement en français, commença en Iran avec la fondation de l'école Darul Funun. Les maîtres européens ou européanisés de cette école y amenaient des manuels scolaires étrangers que les élèves traduisaient en persan. Les relations étroites existant à l'époque entre l'Iran et l'Europe, la constitution de 1906, Inqilab-e Mashrouté et le développement de l'imprimerie jouèrent un rôle déterminant dans le développement de la traduction en Iran. Dans un premier temps, de nombreux ouvrages français furent traduits en persan, puis après la Deuxième Guerre mondiale, la part des ouvrages anglais traduits dépassa peu à peu les livres français. Toutefois, jusqu'à aujourd'hui, les traducteurs iraniens les plus reconnus demeurent ceux qui ont traduit des ouvrages français. Les traducteurs contemporains les plus remarquables sont le docteur Abul Hassan Najafi, Reza Sayed Hosseini, Behazin et Mohammad Ghazi. Parmi eux, ce dernier se distingue de par l'importance de son œuvre et la qualité inégalée de ses traductions. En 1957, la revue Sohan, dirigé à l'époque par le docteur Parviz Natel Khanlari, choisit la traduction de Don Quichotte de Cervantes par Mohammad Ghazi comme meilleure traduction de l'année. C'est ainsi que Ghazi se fit connaître. Ghazi est né en 1913 à Mahabad. Après avoir perdu son père, il part à Téhéran chez son oncle paternel et commence ses études de droit à Darul Funun. L'entrée dans cette école marqua une étape importante de sa vie et lui permet de se familiariser avec des poètes et écrivains comme Parvin Etesami, Jalaleddin Homai, Saïd Nafisi, Parviz Khanlari ou encore Behazin. Il apprit également le français. L'apprentissage d'une langue étrangère lui plaisant plus que les affaires juridiques, il fut naturellement conduit à s'orienter vers des activités littéraires et à se consacrer à la traduction d'ouvrages français. Il publia sa première traduction, Claude Gueux de Victor Hugo, à l'âge de 27 ans. Cependant, la traduction ne devint son activité principale qu'à partir de l'âge de 40 ans, activité qu'il poursuivra jusqu'à la fin de sa vie. Il nous a laissé plus de 70 traductions, dont la majorité est traduite du français. Mohammad Ghazi mourut en 1997 suite à un cancer du larynx et fut enterré dans sa ville natale à Mahabad. Mohammad Ghazi évitait de traduire de la poésie ou des textes théoriques. Il allait même jusqu'à s'opposer vivement à la traduction de la poésie, la considérant impossible. Il préférait avant tout traduire les romans de grands écrivains tels que Mark Twain, Dostoïevski, Maupassant, Flaubert, etc. Les romans qu'il choisissait abordaient toujours des thématiques humanistes telles que la lutte contre l'injustice et l'inégalité et la défense des droits des opprimés. Il nourrissait une admiration particulière pour Victor Hugo, dont les pensées étaient proches des siennes. Razi était l'un des rares traducteurs qui ne travaillait pas pour gagner de l'argent ou acquérir une célébrité. Dans son « Aventure de mes traductions », il explique la raison de ses choix. Ainsi, il évoque qu'on lui avait proposé de traduire « La 25e heure », ouvrage d'un écrivain roumain. Malgré l'importance de la rémunération proposée et son besoin d'argent pour guérir sa femme malade à l'époque, il a refusé le projet car il n'acceptait pas la pensée et les idées de l'écrivain en question. Par la suite, il traduisit un ouvrage antifasciste, « Le vin et le pain » de l'écrivain italien Ignazio Silone et « La liberté ou la mort » de Nikos Kazantzakis. En outre, son attachement à sa patrie l'incita à traduire « Cyrus le Grand » d'Albert Chandreau, alors que son intérêt pour les Kurdes le conduisit à traduire « Juni Gal » de Ibrahim Ahmad en collaboration avec son cousin. Razi considérait la traduction libre et littérale comme étant toutes deux incomplètes. Une traduction littérale suivra au plus près le texte originel et en respectera donc mieux le sens, mais elle court le risque de proposer un équivalent qui paraîtra artificiel dans la langue de la traduction. Une traduction plus libre pourra constituer une authentique œuvre littéraire, avec cependant le risque de s'éloigner du sens originel du texte. Il nous propose donc une troisième voie, la traduction par phrase, une traduction juste et restituant au plus près la beauté du texte original. Une connaissance profonde de la langue d'origine, du contenu du livre et de l'auteur, la fidélité au texte originel et le respect du style de l'écrivain sont les traits remarquables des traductions de Razi. Razi a constamment essayé de cerner le mieux possible la personnalité, le style et le ton des écrivains qu'il traduisait et de retranscrire de la façon la plus fidèle possible le style propre à chacun. Si vous lisez ma traduction de Mahatma Gandhi de Romain Rolland et celle de l'île des pingouins d'Anatole France, vous y trouverez beaucoup de différences dans la forme, le langage et le style. La première porte un ton sec et sérieux, et la deuxième est traduite dans une forme ironique. Dans sa traduction du Petit Prince de Saint-Exupéry, il tente de suggérer au lecteur la sensibilité et le style poétique de l'écrivain. Mais les meilleurs exemples dans ce domaine sont Décaméron, 10 jours de Boccaccio, Télémaque de Fénélon et Don Quichotte de Cervantes. Considérant Don Quichotte, qui aborde une histoire de la chevalerie, comme une œuvre classique, Razi l'a traduit en persan classique et ancien, dans une langue toute conforme à l'époque où vivait Cervantes, 16e siècle, dans un langage épique et héroïque, de sorte que le lecteur ait l'impression de lire une épopée persane. Dans cette œuvre, il y avait plus de 400 proverbes et expressions. Razi a tenté de trouver un équivalent pour chacun d'eux. Pour cela, il s'est notamment référé au « Amsal al-Hikam » de Dehoda. Sa traduction de « Don Quichotte » est considérée comme étant l'apogée de son œuvre. Razi a traduit certaines œuvres avec la collaboration de certains de ses amis. Il a accepté non seulement la collaboration et l'aide des gens professionnels, mais également des néophytes. Par exemple, il a collaboré avec Reza Haridi pour traduire Madame Bovary de Flaubert. Ce dernier en avait fait une traduction libre que Razi transforma en une traduction par phrase. Pour traduire La femme du boulanger de Marcel Pagnol, Razi a rencontré le problème de la traduction des nombreux mots provençaux présents dans la pièce de théâtre. Il a ainsi fait appel à l'aide de la femme provençale de l'un de ses amis qui lui écrivait les mots en français standard et l'aidait à trouver l'équivalent le plus proche en persan. Les traductions de Mohammad Ghazi transmettent parfaitement le style, le ton et le langage de l'écrivain. D'après Abul Hassan Najafi, lui-même traducteur, Ghazi est unique et irremplaçable. En effet, outre son immense capacité de travail, le point fort de Ghazi était sa profonde maîtrise de la langue cible, le persan, ainsi que de la langue source, le français. Le docteur Saleh Hosseini a ainsi dit à son propos « Il est un traducteur qui, de par ses traductions, a défendu le sanctuaire de la langue et de la littérature persane. Bien qu'il n'ait appris le français ni à l'université ni en France, son intérêt et sa maîtrise du français, et surtout du persan, ont fait de Ghazi une des grandes figures de la traduction en Iran. Pour traduire les œuvres qui n'étaient pas écrites en français et trouver leur meilleure traduction en français et en les comparant avec la version originale, il avait notamment une bonne connaissance de l'anglais, il commençait à traduire. Ainsi, il n'a pas traduit Don Quichotte à partir de la version originale espagnole, mais à partir de la traduction française la plus réputée de l'époque. En outre, sa personnalité hors du commun a distingué Ghazi des autres hommes de lettres. Il était un homme modeste, de caractère joyeux et doté d'une grande capacité de travail. Durant les dernières années de sa vie, et malgré son cancer du larynx, il poursuivit sans cesse ses activités de traduction. Selon lui, tout traducteur est investi d'une mission. Le traducteur est comme une clé qui ouvre la porte du trésor de la science et de la connaissance d'une nation à l'autre.